Nous allons prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5. La Bible dit au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. En tant que sel, nous devons changer la constitution des repas afin que les repas deviennent agréables. En tant que lumière, nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc le Seigneur marque bien la différence entre nous, ses enfants, et le reste. Et il dit au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, comment les gens glorifieront Dieu? Comment crieront-ils que Dieu est puissant, même s'ils ne se convertissent pas? Là, Dieu ne dit pas qu'ils vont changer forcément. Non. Mais ils vont glorifier Dieu quand même. Comment le feraient-ils? Lorsqu'ils vont observer les véritables chrétiens dans leur lumière, telle que Dieu leur a donné la lumière. Et c'est très, très important, bien-aimé, de comprendre ce verset-là. Dieu marque carrément la différence entre les chrétiens et les autres. Il y a les enfants de Dieu, parce qu'il dit « votre Père », qu'on glorifie votre Père. Donc, il y a les enfants de Dieu et il y a le reste. Il n'y a pas les enfants de Dieu et d'autres. Ensemble et puis encore d'autres. Non, c'est pas compliqué. Il y a les enfants de Dieu qui sont la lumière et puis il y a le reste. Il y a une différence. Et mon thème, c'est l'heure de la différence. Donc, le Seigneur revient nous chercher, mais il ne prendra que ceux qui sont différents. Il ne prendra pas ceux qui sont réguliers dans les églises ou ceux qui prie régulièrement, il prendra ceux qui sont différents. Et Dieu veut que on commence à marquer cette différence avant le retour du Seigneur. Vous savez, depuis un temps, l'Église a été fourvoyée par des faux messages, des fausses conceptions qui amènent les gens, non pas à devenir différents, mais à devenir meilleurs. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous qu'on devienne meilleur. Il attend de nous qu'on devienne différent. Ce qui fait quoi? C'est qu'on a poussé les chrétiens à s'enrichir en disant, ben oui, mais Dieu a dit qu'on sera les premiers et non les derniers. Mais Dieu a dit qu'on sera. Donc, on est, en quelque sorte, quand il a dit, vous serez. Il avait dit, en fonction de l'obéissance. Ça veut dire que dès que tu obéis, tu es le premier. Donc, ça ne veut pas dire que ça viendra après ton obéissance quelques mois ou quelques années. Il a dit, dès que tu m'obéis, tu seras le premier. Donc, ça sera immédiat. Donc, l'obéissance en Dieu, c'est la mise en avant. Donc, tu deviens déjà premier lorsque tu obéis en Dieu. À Dieu, il y a quelque chose qui vient sur toi, qui fait de toi un premier. Même si, en apparence, tu peux être le dernier, tu n'as pas à attendre un moment pour être premier. Tu l'es déjà. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais maintenant, on a pousser les chrétiens à dire, mais non, je ne suis pas encore premier, il faut que je m'enrichisse, c'est comme ça que je deviendrai premier. Dieu dit, non, tu es déjà riche, tu es, souvenons-nous du verset qui dit, que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche, qu'il ne va pas devenir, qu'il est en Dieu, parce que les ressources sont en Dieu. C'est Dieu qui a le monde entier entre ses mains. Je crois que vous avez entendu parler de la mort de ce journaliste qui était très sympathique, qui pouvait dire qu'il était méchant? Personne. Encore son prédécesseur, certains pourraient dire qu'il était méchant, qu'il avait une mauvaise langue. Mais lui, il était sympathique, joyeux, avec une voix qui plaisait à tout le monde. 49 ans, tout ce qu'il faut comme finance, comme succès, et de la part des journalistes, et de la part du monde. Mais il meurt à 49 ans comme ça. Crise cardiaque. Qui a les ressources? C'est Dieu. La richesse, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas ce que cet homme avait. Parce que si c'était ça, la richesse, il n'allait pas mourir. Donc c'est pour dire que quand Dieu dit « Vous serez les premiers », il n'a pas dit qu'après un temps. Il dit « L'obéissance vous met en position de premier ». Donc quand tu obéis à Dieu, tu es premier, tu n'as pas à attendre un temps. Donc on a mis la pression sur nous. Donc le chrétien devait réussir son mariage. Donc on a mis toutes sortes de conseils, hein, toutes sortes de techniques dans les églises pour que le chrétien soit un meilleur homme. Il réussit son mariage. Il arrive à bien gérer ses enfants. Il arrive. Donc on s'est concentré sur la terre. Qu'il soit un bon prédicateur, on va lui enseigner des techniques pour être un bon prédicateur. On va lui enseigner des techniques pour lire la parole, l'interpréter. Donc, on a mis tout un ensemble de mesures pour expliquer aux chrétiens qu'il fallait qu'il soit meilleur. Or, Dieu a dit qu'il faut qu'il soit différent et qu'il l'est au moment où il devient enfant de Dieu. Ce n'est pas après des exercices. C'est le jour où il devient enfant de Dieu que le chrétien est différent. Maintenant, Jésus, tout ce qu'il demande, il dit, mais vous êtes différent, mais ne vous cachez pas. Donc, soyez sur la table pour qu'on vous voit. Manifestez cette différence, mais vous l'êtes déjà. Ce n'est pas une différence à conquérir, c'est à manifester. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais prêcher seulement, parce que les choses ont changé, on a été tellement trompés qu'il faut d'abord revenir à la vérité. Et ensuite, appliquer ce qu'on vient de lire. Donc, c'est l'heure de la différence, bien-aimé. Pour comprendre ça, il faut comprendre une fois pour toutes que la vie chrétienne est surnaturelle. La vie chrétienne n'est pas naturelle. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu nous proposer quelque chose de naturel en disant que vous allez devenir meilleur. Non, il a dit « Ma vie va venir en vous ». C'est ce qui est écrit dans Jean 1. 12. Ceux qui sont nés, non de la chair, non du sang, mais qui sont nés d'en haut. Donc, le chrétien est né d'en haut. C'est une vie qui vient du ciel, qui vient se mettre en lui. C'est ça le chrétien. Il n'est pas naturel. Il est surnaturel. Il ne faut pas attendre de faire les miracles pour être surnaturel. Le chrétien déjà est surnaturel. C'est une vie anormale. C'est pourquoi les commandements que le Seigneur donne sont des commandements qui ne sont pas naturels. Quand on te dit que si on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite, ce n'est pas naturel. C'est pas des commandements naturels. Et quand on te dit que quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2, c'est pas un commandement qui est naturel. Donc le Seigneur nous donne des instructions surnaturelles parce que nous sommes surnaturels et nous devons nous saisir de cette vie surnaturelle que nous avons. Nous n'avons pas à l'avoir après plusieurs prédications, après plusieurs études bibliques. Nous l'avons pour autant que nous soyons convertis. Donc maintenant la question c'est, suis-je converti ou pas? Mais si on est converti, on a cette vie surnaturelle. Et c'est pourquoi devant une vie surnaturelle, Dieu peut poser des commandements surnaturels. Les commandements que nous avons dans la vie chrétienne sont des commandements qui dépassent l'homme normal. On est d'accord là-dessus. Et ma prédication, c'est que c'est justement pour ça que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que, clairement, par nous, visiblement, la différence soit marquée entre Dieu et ce qui est naturel. C'est pour cela. Mais beaucoup ne le savent pas. Parce qu'ils ont entendu des faux évangiles comme quoi, quand on est sauvé, on n'est plus inquiété. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Donc la Bible ne nous parle pas du paradis sur terre. La Bible nous montre clairement que le paradis, ça sera au ciel. Au contraire, la Bible nous dit que celui qui croit en Jésus aura tout, mais avec des persécutions. Donc avec des difficultés, des attaques, et des pressions. La Bible nous montre dans 1 Jean 5, 19, au contraire, que le monde entier est dominé par Satan. Le monde entier. Et que nous, en tant que chrétiens, nous aurons un combat jusqu'à notre mort. Mais la Bible nous certifie, nous assure que dans ce combat, nous serons toujours plus que vainqueurs. C'est ça la différence. Nous allons mener une vie surnaturelle avec des commandements surnaturels. Et c'est cette vie surnaturelle qui montrera aux gens, tiens, ils sont différents, ils ne sont pas normaux. Et c'est ainsi qu'ils pourront glorifier Dieu et, si possible, pour ceux qui sont humbles, se convertir et venir à lui. Je raconte souvent le témoignage de ma conversion. Ça a été toujours marqué par des choses surnaturelles. La première fois, quand on était en train de passer notre bac, comme j'étais dans une école religieuse, on nous a amené quelque part pendant 3 jours et on a vu un film où un homme a réagi dans ce film-là, un film vrai, hein, d'une histoire vraie. Eh bien, cet homme-là a réagi d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire, lui qui était en bonne santé, lui qui était beau, fort, il a accepté d'aller habiter avec des lépreux dans une même île, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour guérir de la lèpre. Pourquoi il a accepté cela? Pour aller leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en même temps, leur donner une certaine éducation, malgré le fait qu'ils soient enfermés dans une île. Quand j'ai vu ça, alors que j'étais quelqu'un de distrait, de léger, j'ai pleuré. Je dis toujours, heureusement, les lumières étaient éteintes, personne ne m'a vu. Mais j'ai pleuré. Le surnaturel m'a dépassé. J'ai dit, c'est pas possible. Cet homme-là, personne ne lui demande quelque chose. En plus, il laisse sa mère. Il n'avait que sa mère comme famille. Il laisse sa mère dans le continent. Donc, en quelque sorte, il va mourir avec les lépreux parce qu'il ne pourra plus sortir. Du moment que tu entres dans cette île, tu ne peux pas sortir parce que tu es supposé avoir la lèpre aussi. Donc, comme il n'y avait pas de médicaments pour guérir de la lèpre, tous les lépreux, on les... les abandonner dans cette île-là. Donc cet homme vient d'accepter d'aller mourir pour sauver les lépreux, les amener au ciel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai pleuré. Mais il y avait personne en ce moment-là pour me dire, convertis-toi, change de vie. J'ai recontinué avec mon ancienne vie en sortant de ce moment-là. J'arrive au Maroc pour mes études. Je suis accueilli par des gens qui se disaient chrétiens, frères. Et là... alors qu'on vivait dans la galère totale, la nourriture c'était un combat, donc on mettait un gros plat, on déposait, et c'était au plus rapide. Donc si tu n'es pas rapide, tu restes affamé. Et dans ces conditions-là, un frère qui, quand quelqu'un n'était pas là, on lui laissait sa part, mais il faut savoir qu'il y a un proverbe du monde qui dit « les absents ont toujours tort ». Et donc les absents, on leur laissait leur part, mais une faible part. Alors, le pasteur aimant que les gens connaissent là, certains connaissent, il faisait partie de ces frères-là. Quand il revenait, alors que sa part était faible, il n'avait pas encore mangé, nous avions déjà mangé notre part. Il m'appelait encore, Eric, viens manger. Je disais, mais non, cet homme-là, comme on dit dans le langage, a pété un câble. C'est pas normal. Déjà, il est affamé. Nous, on a déjà mangé. Sa part est très petite. Il m'appelle encore à manger. Bon, moi, comme j'étais un peu gentil, même si j'étais encore dans le monde, alors je me disais, non, je ne vais pas aller quand même. Je goûte juste un peu. Non seulement il m'appelait, moi, il appelait encore un méchant maintenant cette fois-ci. Allez, je ne vais pas citer son nom, viens aussi manger. Alors lui, c'était sans pitié, il mangeait sérieusement. Alors, je disais, mais non, ça, c'est pas possible. Le jour où on m'a dit, Eric, on va baptiser des gens demain qui ont suivi, ils ont suivi toute une semaine de cours pour le baptême. Et est-ce que tu aimerais pas te faire baptiser toi aussi? Ils m'avaient jamais prêché, même si j'habitais avec eux, ils m'avaient jamais parlé du Seigneur. Ils vivaient seulement une vie tranquille, une vie surnaturelle. Certains cherchent à sauter les gratte-ciel pour qu'on voit leur surnaturel, ou bien à guérir les paralytiques. Eux, c'était pas ce surnaturel-là. Même si Dieu est capable de faire aussi ce surnaturel, ils manifestaient la vie de Jésus, une vie surnaturelle. ils étaient tranquilles. On les surprenait pas en train de parler du mal des autres. Ils étaient souriants. Alors, ils étaient à part. C'était des gens surnaturels. Après, quand ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais te faire baptiser? Bien aimé, il y a des gens qui traînent pour se faire baptiser. Moi, j'ai pas traîné. J'ai dit, d'accord, c'est demain. Oui, mais je leur ai dit d'abord, je suis déjà baptisé. Ils m'ont dit, non, tu n'es pas baptisé. Moi, je dis, mais oui, mais quand j'étais bébé, ils ont dit, non, non, on t'a cérémonié. C'était pas un baptême parce que pour être baptisé, il faut croire. On m'a montré le verset biblique. J'ai dit, bon, d'accord. S'il faut croire, ben, je vais croire et me faire baptiser. Bien aimé, en un jour, je me suis fait baptiser en un jour. Conscient, c'est pas que à la va-vite. J'étais déjà travaillé par leur témoignage surnaturel. J'étais déjà travaillé par leur comportement. La vie chrétienne est surnaturelle. Imaginez quelqu'un qui n'a pas beaucoup mangé, qui n'a pas encore mangé, avec un petit plat, appelé encore d'autres qui ont déjà mangé. Mais ça, c'est fou. C'est surnaturel. C'est ça, la vie chrétienne. Prenons conscience de cela. Nous devons être différents. Pas meilleurs, mais différents. Nous sommes nés d'en haut. Notre vie est une vie du ciel. Vous savez, beaucoup de gens disent, mais oui, mais jusqu'à quand il va me tourmenter comme ça? Jusqu'à quand elle va me faire telle chose? Bien-aimé, concentrons-nous sur le fait que nous sommes d'en haut. Pose-toi plutôt la question, quelle est la vie que Dieu veut que je mène vis-à-vis de cette personne qui me crée tant de problèmes? Quelle est la vie, le comportement que Dieu me propose vis-à-vis de cette situation qui est compliquée? Bien-aimé, et je commence par le premier point. Notre vie est surnaturelle. Comment on doit la manifester? Déjà, je vais donner que quelques points, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est être différent, être surnaturel. Le premier point, c'est vis-à-vis des mauvaises nouvelles. La Bible dit dans le psaume 112, verset 7, que dit la Bible? La Bible dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Israël, quand il a été sauvé de l'Égypte, Dieu voulait, hein, quand on lit Exode 19, 5 à 6, Dieu dit que je vous ai mis à part pour faire de vous un peuple saint, un peuple mis à part. Il fallait que les gens, en regardant Israël, se disent, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ils sont différents de nous, les autres peuples. Chez nous tous, nous avons un roi. Chez nous tous, nous avons des dieux avec des statues. Mais chez eux, il n'y a pas ça. Chez nous, nous sacrifions nos enfants au feu, nous les tuons, mais eux, ils sacrifient pas les humains. Mais chez nous, nous marchons sur le feu, mais eux, ils le font pas. Donc, il fallait qu'Israël soit différent, et mais dans sa différence, qu'il manifeste aussi une puissance telle que les autres nations reconnaissent que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Donc, Israël, c'est l'évangéliste des nations, donc des pays. Donc, il fallait que, en tant que pays, Israël puisse montrer qu'il est le plus grand pays le plus puissant, alors qu'il est petit en nombre, petit en terrain. Il fallait que dans sa vie, on se rende compte que la vérité se trouve là-bas. D'ailleurs, tous nos codes civils, notre droit est basé sur quoi? Sur les passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, Israël devait, à travers ces textes, la parole que Dieu lui avait donnée, faire la différence. Il fallait qu'Israël apprenne à vivre non pas comme les autres pays, avec des prévisions, avec des plans bien conçus, bien ficelés. Il fallait qu'il apprenne à vivre de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 8, je vous ai amené dans le désert pour que vous appreniez que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Donc Israël avait été mis à part pour une nouvelle vie, une autre vie, une vie différente. Mais ils n'avaient pas compris ça. Malgré le temps passé dans le désert, Dieu leur dit, mais vous avez passé du temps dans le désert. Est-ce que vos pieds sont usés? Non. Comprenez? Donc, j'ai été capable de maintenir vos pieds en bon état, vos sandales en bon état, malgré tout ce temps passé dans le désert. Donc, j'ai voulu que vous compreniez que vous devez vivre de moi, mais non pas des choses de la terre. Dieu est-il contre le travail? Non. Il veut qu'on travaille, mais non pas dans les objectifs pour lesquels nous travaillons aujourd'hui. Il veut qu'on travaille pour qu'on fasse notre part dans cette société. Mais il ne veut pas qu'on travaille comme si le travail était notre secours, notre fournisseur de nourriture et d'autres choses. Non, le travail, c'est pour qu'on soit utile dans cette société, qu'on fasse notre part et qu'on témoigne aussi de Dieu dans n'importe quel endroit. Et puis qu'on n'entre pas dans la paresse non plus. Mais qui pourvoit nos besoins? C'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu veut qu'on comprenne, qu'on vive différemment des autres. Bien aimé, c'est très important. Sinon, tu as tapé à côté. Israël avait tapé à côté. C'est pourquoi à chaque fois que l'eau manquait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rebellait. Il se disait pas, que faut-il que nous fassions? Mais il se rebellait. Parce qu'il comprenait pas que l'eau manque. Il voulait vivre comme les autres peuples avec des structures de ravitaillement d'eau qui fassent qu'on ne puisse jamais manquer. Or, Dieu voulait qu'il vive de son robinet à lui. Et l'apôtre Paul en parle. Que Israël était abreuvé par un rocher spirituel. Donc chaque jour, Dieu devait ouvrir un robinet pour leur donner de l'eau. Mais eux, ils voulaient pas de ça. Ils voulaient faire des réserves, avoir tout ce qu'il fallait et marcher à coup sûr jusqu'à destination. Dieu ne voulait pas de ça. Parce que ça, c'est comme tout le monde. Dieu voulait qu'ils fassent le miracle. C'est pourquoi il les a nourris de la manne pendant 40 ans. Une nourriture qui descend du ciel. Il voulait faire la différence. Vous vivrez de moi, vous ne vivrez pas comme les autres. Et aujourd'hui, il te dit que tu dois vivre de sa parole et non pas comme les autres. Qu'est-ce qui doit te nourrir? C'est ce que lui-même a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu lis ce verset-là, tu sais que demain je vais manger. Quand tu lis ce verset-là, tu sais que dans une semaine je vais manger. Je vais vivre. Je ne manquerai pas d'essence. Quand tu lis ce verset-là, tu sais que ton avenir est assuré. Mais toi, on te retrouve à vivre comme tous les humains, à t'inquiéter du montant de ta retraite, à t'inquiéter des années à venir, du CDI. Mais tu vis comme tout le monde, finalement. Où est la différence? Dieu veut qu'on vive différemment. Nous sommes sauvés pour vivre une vie surnaturelle. Daniel, quand il a entendu les mauvaises nouvelles, comme quoi on va tuer tous les sages de Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses amis. Ils sont partis chercher la face de Dieu. Ils sont partis prier. On voit la différence. Tout le monde était perturbé, sauf Daniel et ses amis. Ils sont partis prier. Voilà ce que comment devrait vivre un chrétien. Quand il entend des mauvaises nouvelles, il va vers Dieu. Josaphat, quand il a entendu qu'il y avait toute une armée immense qui venait les attaquer, la Bible dit quoi? Dans sa frayeur, dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Les enfants de Dieu aussi peuvent avoir la peur peut les atteindre. La frayeur peut les atteindre. Mais, ça les conduit à quoi? À chercher la face de Dieu parce qu'ils savent que Dieu a la solution à tout. C'est ça la différence. Mais si la peur, la frayeur nous conduisent à murmurer contre Dieu, à nous décourager et à nous lasser, ça veut dire que nous vivons comme tous les hommes. Ou aller chercher des solutions parallèles. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs cherchent des solutions parallèles. Soit chez le diable, soit dans le monde économique, le marketing, la publicité. C'est des solutions parallèles. Soit dans la psychologie, c'est des solutions parallèles. Dans la Bible, on ne voit pas de psychologie là-bas. Dans la Bible, on voit la parole de Dieu qui guérit l'âme. Mon âme bénit l'Éternel. Il te guérit car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme, Dieu guérit l'âme. C'est une vérité. Et comme il y a certains échecs, beaucoup de gens vont chercher des solutions parallèles. Finalement, ils vivent comme tous les hommes. Avec la même publicité que les hommes. Mais Jésus, est-ce qu'il faisait la pub? Jésus était dans la maison, la Bible dit, on a appris qu'il était dans la maison. L'Esprit Saint faisait la publicité et ce que Jésus faisait, c'est ce qui se répandait de bouche à oreille. Il faisait tellement de grandes choses que la nouvelle se répandait. Il n'avait pas besoin de mettre de grands coups de publicité. Nous devons revenir à la vérité, à l'évangile. Devant les mauvaises nouvelles, nous devons faire comme Daniel. Nous devons faire comme Moïse. À chaque fois qu'il y avait des mauvaises nouvelles, à chaque fois qu'il manquait d'eau, ils sont arrivés à la mer Rouge. Moïse a crié vers Dieu. Eux, ils ont crié. Mais oui, mais Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir. Toujours se plaindre. Toujours chercher les failles auprès de Dieu. C'est ça les faux chrétiens. Ils cherchent toujours là où Dieu a fait une erreur. Mais Dieu ne peut pas en faire. Tu finiras toujours, toi, par t'humilier. Si tu ne t'humilies pas, Dieu te résistera. Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'y a que l'homme qui peut en faire. Dieu n'en fait pas. Bien-aimé, c'était le comportement des enfants d'Israël. C'est pourquoi ils ont traîné 40 ans à chaque fois se plaindre devant les mauvaises nouvelles. Ils vont, Dieu leur dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Ils vont visiter le pays. Ils se rendent compte qu'il y a des géants là-bas. Ils reviennent avec des beaux fruits. Au lieu de dire, Seigneur, mais tu nous donnes ce pays-là, mais on a vu des géants. Que faire? Non, ils reviennent. Ah là, Dieu, c'est vrai, il nous a parlé de ce pays. Ils reconnaissent que Dieu a raison en disant que le pays est beau, le lait et le miel, il y en a là-bas. Mais c'est pour notre mort que Dieu nous envoie là-bas. Bien-aimés, ils changent donc la parole de Dieu et ils font de Dieu un menteur. C'est pour notre mort que Dieu nous envoie là-bas parce qu'il y a des géants. Mais Josué et Caleb leur disent, mes bien-aimés, Dieu nous a sortis de chez Pharaon. Là où on n'a même pas utilisé une flèche, même pas un seul arc. C'est aujourd'hui que Dieu va nous abandonner. Dieu nous a fait passer la mer Rouge. Il nous a fait gagner la guerre dans Exode 17. Nous avons gagné une guerre face à Amalek. C'est aujourd'hui qu'on va perdre. Non. Nous, nous croyons que Dieu nous a donné le pays. On va y aller. C'est ça, le véritable juste. Ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Si parfois la peur peut arriver, cette peur se transforme en prière et ils retrouvent la paix, comme la Bible dit dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et lui, il vous répondra à travers des supplications, des prières, en suppliant. Lui, il vous répondra et vous donnera la paix. Et cette paix-là, c'est une victoire. Parce que vous êtes tranquille malgré le danger. Bien-aimés, la réaction vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des mauvaises nouvelles, c'est ça qui montrera la différence. Et Dieu nous attend là. Il nous attend là. Beaucoup ne cherchent que à vouloir épater par en faisant de grandes choses, en devenant riche, pour dire aux gens, regardez, Dieu m'a béni, il m'a donné une maison. Regardez, Dieu m'a béni, il m'a donné deux enfants. Il m'a béni, il m'a donné une Mercedes. Non! C'est pas mal, mais est-ce que les païens n'en ont pas d'enfants? Ils en ont. Est-ce que les païens n'ont pas de maison? Ils en ont. Est-ce que les païens n'ont pas de voiture? Ils en ont. Mais où est la différence en ce moment? Quel est l'homme le plus riche de ce monde? C'est Bill Gates. Est-ce que c'est un chrétien? Ben non. Dans ce cas, si la richesse devait marquer la différence entre nous et les païens, donc on a perdu, puisque les plus riches, c'est les païens. Si les enfants devaient marquer la différence entre nous et les païens, on a perdu parce que c'est les païens qui ont le plus grand nombre d'enfants. Les chrétiens sont minoritaires. Si c'était la beauté physique, on a perdu. Il n'y a qu'à voir les pubs. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus-Christ n'avait pas d'éclat pour attirer physiquement. Quand on le regardait physiquement, on ne pensait pas au physique. On pensait à autre chose. La Bible ne dit pas qu'il était laid. La Bible dit seulement que sa constitution était telle que il ne faisait pas penser au physique quand on le regardait. Et un chrétien peut être beau, une chrétienne peut être belle, mais quand on regarde, on ne pense même pas au physique parce que tellement il dégage une paix, une spiritualité, en même temps une autorité qui fait que tu ne vois plus le physique, tu vois autre chose. C'est ça le véritable chrétien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas, bien-aimé? Des chrétiens qui forcent sur le physique, bien-aimé. Même chirurgie esthétique, on y va. Mais est-ce que la chirurgie esthétique peut sauver de la mort? Est-ce qu'on a vu un mort, on dit, bon, comme tu es mort, on va te faire une opération pour que tu ressuscites? Jamais. Dieu marque la différence. Nous, on va ressusciter un jour. Avec un corps incorruptible. Bien-aimé. Ça, c'était des parenthèses que j'envoie comme ça. Nous revenons aux mauvaises nouvelles. Il faut que nos réactions vis-à-vis des mauvaises nouvelles soient différentes. Vis-à-vis des épreuves soient différentes. Vous savez, il y a des mauvaises nouvelles qui te disent, je suis là pour 40 ans. Donc, il ne faut pas écouter. Donc, la mauvaise nouvelle, quand tu découvres ça, par exemple, tu as 20 ans, tu découvres, tu vas voir le médecin, on te découvre un vice, une tare, tu te dis, bon, comme c'est dans les gènes, donc c'est pour 50 ans, puisque dans les gènes, qui peut enlever ça dans les gènes? Ça, c'est la mauvaise nouvelle qui te dit ça. Je suis là pour 50 ans. N'écoute pas ça. Cette mauvaise nouvelle n'a pas été créée. Dieu existait avant cette mauvaise nouvelle-là. Et il peut l'enlever. La Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre réaction par rapport aux mauvaises nouvelles doit changer, bien-aimé. Nous devons prendre la parole de Dieu et mettre en avant. C'est ce qui faisait la différence entre Moïse, Daniel, Josué et les autres. Bien-aimé, moi je suis d'accord avec quelqu'un qui dirait, nous avons besoin de Dieu, quoi, abondamment. Nous avons besoin de prier. Je ne parle pas de la prière de mitraillette où on parle, on dit tout beaucoup pour remplir un temps. Je parle de la vraie prière où on est conscient de qui Dieu est. On fait vraiment un partage avec Dieu. On prie, on est conscient, on l'écoute aussi. Je ne parle pas de la prière où on fournit pour dire j'ai fourni. Non, de la prière où on reçoit de Dieu, où on s'humilie, où on accepte nos torts. De la prière où qui nous permet d'accepter la volonté de Dieu. De la prière où on est comme des enfants, non pas comme des pros. C'est ça la vraie prière. Ça, je suis d'accord avec quelqu'un qui dirait, on a besoin de ça à tout moment. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. C'est vrai, notre vie est surnaturelle, elle a besoin d'une production surnaturelle, d'une source surnaturelle. Et cette source-là, c'est Dieu lui-même, c'est la vie de Dieu. Et donc la prière est capitale pour le chrétien, c'est capital. Je parle de la prière basée sur la parole de Dieu, pas de la prière religieuse, mais basée sur la parole. Où on met la parole de Dieu en avant, on dit, mais Seigneur, je veux intégrer ça, je veux entrer dans ça. C'est cette prière-là dont je parle. Et effectivement, on en a besoin à tout moment. Prier sans cesse. On a besoin, pendant qu'on mange, de discerner la bonté de Dieu, dans la qualité de la nourriture. C'est ça la prière. On a besoin de discerner quand on se réveille. Tiens, le Seigneur m'a sauvé. Parce que j'ai dormi, je ne savais pas où j'étais. Quelqu'un pouvait me tuer pendant que je dormais. Quand je me réveille, Dieu m'a sauvé. Quelqu'un m'a témoigné qu'elle avait une amie qui, quand elle se réveillait, elle disait, j'ai gagné. Voilà l'erreur. Donc, je me suis réveillé, j'ai gagné. Donc, je pouvais mourir. J'ai gagné encore quelque chose. Non, tu n'as rien gagné. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Et ça, c'est les prières que Dieu veut nous voir. C'est ça la différence, bien-aimé. Je suis d'accord pour la prière. Il faut prier sans cesse. Parce que notre vie est compliquée sans Dieu. Ce qui est demandé aux chrétiens nécessite une présence constante de Dieu. Une présence constante de sa parole. Je suis d'accord avec vous que c'est difficile ce qu'on nous demande, mais c'est possible avec la prière, une vie constante avec Dieu. On nous demande de ne pas être naturel, on nous demande d'être surnaturel. Et seul le Dieu surnaturel peut nous rendre surnaturel. Nous allons lire un texte pour accéder au deuxième point, qui est le centre de mon message quand même. Matthieu 5 toujours, Matthieu 5. Le deuxième point, on commence au verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus est clair. Il dit, si vous n'êtes pas plus juste que les religieux qu'on voit officiels, alors vous n'allez pas aller au ciel. Moi, je ne vous demande pas d'être des religieux, je vous demande d'être différent. Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, raca, qui veut dire vide, hein, donc c'est un terme qui veut dire zéro, quoi, mérite d'être puni par le Sanhédrin, donc le conseil, le tribunal suprême des Juifs. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande.
Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans le feu. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. C'est le centre de mon message. C'est le centre de mon message, ce passage. C'est le centre du message. C'est la différence. Le centre, c'est ce commandement qui nous demande d'aimer nos ennemis. L'amour des gens mauvais. Ça, c'est la grande différence que Jésus-Christ est venu apporter. Aimer les mauvaises personnes. Aimer les méchants. Ça, c'est la grande différence que Jésus-Christ est venu apporter. Et si on veut réellement réaliser qu'on est chrétien, c'est entre autres à ce niveau-là. Il y a plusieurs choses qui sont citées. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas discuter sur tout, parce qu'on a un temps limité. Comprenez l'esprit du message et prolongez ce message chez vous à la maison à travers le passage de Matthieu 5. Mais je vais insister sur quelques points, c'est tout. Et le plus grand point, c'est l'amour pour les mauvaises personnes. Dieu veut marquer la différence en nous, en nous aidant à aimer les gens qui sont mauvais. C'est là réellement que ça se verra qu'on est des enfants de Dieu. Il dit, tout le monde fait la même chose, il déteste son ennemi. Si vous aussi vous détestez les ennemis, donc vous êtes pareil que tout le monde. Vous allez marquer la différence en aimant les gens mauvais. Bien-aimés, c'est vrai que il y a des gens qui sont mauvais, hein. Et tu te dis, mais c'est vrai qu'on nous demande d'aimer les ennemis là. Il est vraiment mauvais là. Oui, mais la Bible ne donne pas une limite à ces mauvais-là.
Il dit qu'il faut aimer les gens mauvais.
Et vous savez, à chaque fois que j'ai été confronté à cela, c'est là que j'ai grandi spirituellement. Les gens cherchent la puissance à travers de jeûnes forcés, de longues prières. C'est très bien quand on le fait humblement pour rencontrer Dieu. Mais pour trouver la puissance, c'est en accomplissant ces commandements-là. Plus tu vas aimer les gens mauvais. Vous savez, quand moi je cherche la puissance, je me concentre sur les gens mauvais que je connais. Et je commence à prier pour les aimer. C'est là que quand je commence à évangéliser, ça marche. Je commence à prêcher, ça marche. Voilà. Parce que il y a une puissance qui vient du ciel quand on commence à aimer les mauvaises personnes. La différence s'impose. Les gens, nous avons un problème, c'est qu'on se dit, mais on risque d'encourager le mal. Non, 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 on ne nous demande pas de dire que ce qui est mauvais est bien. Non, on reste dans notre position, ce qui est mauvais est mauvais. Mais on nous demande, nous, d'avoir une attitude bonne envers ces gens-là. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ce n'est pas les humains qui sont nos ennemis, mais ce sont des esprits qui animent ces humains-là. Et ces esprits-là, on les gagne, on les vainc, on triomphe d'eux en aimant les humains qui sont leur véhicule. Quand on aime les humains qui sont leur véhicule, ces esprits-là, leur force diminue et ils finiront par fuir. Tu t'imagines quelqu'un qui est en colère. Tu réponds à cette colère. Par la colère, tu ne fais que fortifier l'esprit de colère qui est en lui. Il va se dire, bon tiens, il m'a mal répondu, moi aussi, je vais encore augmenter. Tu ne fais que fortifier ça. Jésus a dit, qui tue par l'épée, mourira par l'épée. La violence appelle, je voulais parler en même temps de la violence. Parce que la violence, c'est quelque chose qui est vraiment inné dans l'homme. L'homme du péché a hérité de la violence. Même l'une des choses qui avait énervé Dieu pour supprimer l'humanité, c'était la violence. La Bible dit, Dieu a vu que la violence s'est répandue dans toute la terre. Ça l'a énervé, il a dit, je vais déverser le déluge. C'est la violence. Vous savez, petit à petit, la haine, petit à petit, la colère finit par la violence. Qu'on le veuille ou pas, c'est une terminaison logique. Et Dieu déteste la violence. Mais il sait bien que la violence a pour source le non-respect à ce commandement. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que Dieu te propose pour la personne qui te fait du mal? C'est ce que tu dois chercher. Ça fait en préparant ce message, quelqu'un m'a attaqué dans mon immeuble. Et je me préparais à revenir faire la contre-attaque, non pas physiquement, mais par la parole, expliquer au gardien que c'est la personne qui avait tort, ainsi de suite. Le Seigneur me dit, il faut pas que tu cherches à démontrer que tu as raison. Il faut que tu penses aux paroles que tu vas dire qui vont sauver cet homme-là. C'est tout. Qui vont aider cet homme-là. Ne cherche pas ta raison, mais cherche le salut de l'autre. Qu'est-ce que tu vas... Dieu ne veut pas dire par là qu'il faut cacher la vérité. Hein. Donc, il faut bien comprendre les choses. Mais il veut soigner nos motivations. Quelle est ta motivation quand tu veux dire la vérité? Est-ce que c'est pour avoir raison ou bien c'est pour amener cet homme-là à venir aussi à la vérité, à reconnaître qu'il est en danger en allant avec le diable comme ça? C'est ta motivation que Dieu veut soigner. Il ne te dit pas de cacher la vérité, de dire que le vol n'est pas du vol. Il veut que dans ton attitude, dans tout ce que tu fais, que ça soit l'intérêt de l'autre qui soit visé. Parce que toi, tu as déjà tout gagné. Tu as Dieu. Tu as tout. Mais lui n'a rien. Il n'a pas Dieu. Tu as tout gagné. Même si tu es en face d'un chrétien. C'est pourquoi les gens ne sont pas indulgents vis-à-vis des chrétiens. On se dit, mais oui, mais c'est un chrétien. En plus, il modère. En plus, il prêche. Et il fait ça. Donc, bien-aimé, il a besoin de ton aide. Il a besoin de ton aide. Quand on commence à aimer les mauvais, c'est là qu'on entre dans la nature de Dieu. C'est là que la puissance se manifeste. C'est vrai, bien-aimé. C'est là que la puissance se manifeste.
Vous savez, il y a plusieurs choses qui attirent la puissance. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand on commence à entrer dans ça, la puissance est attirée. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a plusieurs éléments. La victoire sur l'argent, tout le reste, c'est des éléments qui font la différence entre nous et les autres. Mais je vais donner quelques points. L'amour, c'est important. Aimons les gens qui nous font du mal. Aimons-les. Je ne demande pas de nous concentrer jusqu'à ce que l'amour vienne. C'est de faire un choix, de dire, Seigneur, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai choisi d'aimer la personne. Alors, remplis-moi de paix et d'amour pour cette personne-là. C'est Dieu qui va faire. Encore une grande parenthèse, tout ce que je suis en train de dire, c'est Dieu qui va accomplir. Mais nous devons accepter cette façon-là de faire. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, nous devons fonctionner autrement. Mais comment fonctionner autrement si tu ne connais pas ce fonctionnement-là? C'est ce que je suis en train de prêcher. Quel est ce fonctionnement? C'est le nouveau fonctionnement, c'est l'amour. Le nouveau fonctionnement, c'est la foi. L'ancien fonctionnement, c'était l'épargne, c'était les réserves, c'était les calculs. Le nouveau fonctionnement, c'est la foi. L'ancien fonctionnement, c'était on me tape, je me venge. Le nouveau fonctionnement, c'est l'amour. Éviter la violence, bien-aimé. Éviter la violence. Et vous savez, souvent, pourquoi on devient violent? En général, c'est par vengeance. Rares sont ceux qui sont violents d'eux-mêmes, directement. En général, on devient violent parce qu'on veut se venger de quelque chose. Et surtout, quand on a subi une violence, c'est là qu'on cherche à répondre aussi par la violence. Parce que l'homme est fier. Il est orgueilleux et accepter de se faire violenter sans réagir, c'est passer pour une poule mouillée, c'est passer pour quelqu'un qui est faible et ça pousse à prouver qu'on n'est pas faible et à répondre par la violence. On m'a fait ceci, je vais prouver que moi aussi je peux. Et c'est ça qui nous tue. Dieu dit, si tu prouves ainsi, comment moi je vais agir? Parce que toi-même tu as déjà agi. Romains 12 dit, laissez agir la colère, c'est-à-dire la colère de Dieu. Laissez la colère de Dieu gonfler. Laissez. Vous ne vous vengez point. Romains 12, ne vous vengez point. Laissez agir la colère de Dieu. Aimez ceux qui vous font du mal. C'est là la différence, bien-aimé. C'est là la différence. C'est la grande différence. C'est ce que Jésus apporte. Et on trouve ça dans aucune autre religion, dans aucun autre discours. On trouve ce commandement-là. Aimez les ennemis. Répondez au mal par le bien. On trouve ça dans aucune autre théorie que dans celle de Jésus-Christ. C'est ça qui va marquer la différence. Il y a des gens parfois qui ont des visages qui énervent. Donc quand tu vas commencer à aimer de telles personnes, tu es passé à une autre étape avec Dieu. Tu commences à entrer dans la gloire. La gloire vient de la nature de Dieu. Bien-aimé, la gloire vient du fait de vivre la vie que Dieu nous propose de vivre. C'est très, très important, bien-aimé. La violence, c'est pas bon. La violence, c'est pas bon. Et on peut être violent, pas seulement physiquement, mais on peut l'être par nos paroles. On peut être par notre indifférence. On est en colère tellement qu'on devient très indifférent. C'est de la violence. Vous savez, pour comparer la violence, pensez à une pierre. Voilà, ça ressemble à une pierre qui tombe sur quelque chose. Voilà, c'est ça la violence. On devient tellement colérique. On tombe dans la colère tellement que ça fait de nous une pierre. Et souvent, on peut rester indifférent pendant 1 heure, 2 heures, et puis on va nous dire une petite phrase, c'est là que tout va sortir. Comme un gros rocher qui tombe quelque part, les gens vont se rendre compte que notre cœur était endurci. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est de la violence. Dieu veut qu'on soit des gens de paix. La violence, c'est
quelque chose qui est inné dans l'homme. C'est l'homme qui veut prouver qu'il est homme. Il se laisse pas faire. Et ça le rend violent. Mais l'homme de Dieu, c'est que son Dieu est tout puissant, bien-aimé. Les premiers chrétiens, bien-aimés, on les tapait, on les frappait, on faisait même que, on les amenait dans les arènes et les lions les mangeaient devant tout le monde. Mais ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils savaient, eux, à quoi ils étaient appelés. Bien-aimés, je suis d'accord avec vous. Tout ce que j'ai dit là est compliqué pour un homme naturel. Mais nous ne sommes pas des hommes naturels. C'est ça l'enseignement de la Bible. Nous sommes des créatures nouvelles. Même notre Seigneur Jésus a été confronté à ça. Nous allons lire dans Jean 12. Jean 12. Jean 12. Au verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dans l'heure de la croix, c'est venu. Mais lui dit, c'est l'heure de la gloire. Vous voyez le contraste, hein? Il sait que l'heure de la souffrance est venue, il appelle ça l'heure de sa gloire. En vérité, je vous le dis, en vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Jésus dit, mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Donc Jésus était troublé par tout ce qui allait se passer. Il allait se faire taper, injurier, il allait se faire traîner, il allait se laisser traîner comme un voleur, comme un agneau, comme une bête. Il allait être déchiré, on allait lui cracher dessus. Bien-aimé, souvenez-vous que Jésus est le roi des rois. Mais on allait lui faire tout ça. Et il a dit ça. Enfin, cette heure-là est venue. Mais il savait aussi que la gloire, c'est là-bas. La gloire, c'était dans le fait qu'on lui fasse tout ça et qu'il ne réponde pas. Qu'il mette sa royauté de côté. Vous savez, quand les soldats sont venus, quoi, ils ont dit, qui est Jésus? Jésus a dit, c'est moi. Rien que la réponse, c'est moi, ça a amené tous les soldats à tomber par terre. Boum! Mais Jésus a dit, ma gloire est toi. Laisse. Il a dit, les anges, calmez-vous. Ma gloire, ma puissance, calme-toi. Je me laisse faire. Et Jésus était troublé. Il savait que tout cela va commencer. Mais vous savez quelle phrase il dit? Toujours au verset 27. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, ma raison d'exister, c'est pour cela. D'exister en tant qu'homme, hein? Donc, ma raison d'exister en tant qu'homme, c'est ça, justement. Si je suis venu ici, dans ce monde, c'est pour que on me frappe, on m'injurie, on me tue pour que l'humanité soit sauvée. Si j'existe, c'est à cause de ça, je ne peux pas fuir. Maintenant, le chrétien, pourquoi il existe? Il existe pour être différent. C'est ça la raison d'exister du chrétien. Il n'existe pas pour rattraper le retard perdu comme dans le jardin d'Éden. Non! Il existe pour être différent afin que dans sa différence, les autres voient Dieu. Parce que sans cette différence, les autres ne peuvent pas voir Dieu. Le chrétien, sa vie est de l'évangélisation de tous les jours. Sa vie est un message pour les païens de tous les jours. C'est un message de tous les jours. Et je dis bien pour tous les païens. Et même pour certains chrétiens qui ne comprennent pas encore la parole. La vie du chrétien est un message.
Jésus dit, mais je suis troublé. Aïe, aïe, aïe. Je serai injurié. On va me cracher. Il voyait tout ça. Et qu'il était obligé de ne pas répondre. Il voyait la mort à la croix. Il voyait ses disciples qui allaient fuir sans berger. Il voyait la déception qu'il allait avoir dans le cœur des disciples. Vous imaginez que Jésus savait que les disciples allaient être désemparés. Vous savez, Jésus pouvait encore supporter sa propre souffrance, mais supporter la souffrance de ses disciples. Il était habitué à eux. Il les aimait beaucoup. C'est comme un père, une mère qui peuvent encore supporter leur souffrance, mais supporter encore la souffrance des enfants, là, c'est grave. Là, c'est autre chose. Un père peut dormir sans manger. Une mère peut dormir sans manger. Mais penser que son fils ou sa fille vit dans ces conditions-là, ça peut le rendre fou. Et Jésus-Christ pensait que les disciples allaient être désemparés. C'est comme si on lui arrachait quelque chose. Bien-aimé, mais là, dis, j'ai pas le choix. Si je suis venu, c'est pour cela. Bien-aimé, si nous sommes chrétiens, c'est pour manifester l'amour, manifester la différence. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Autrement, cela ne sert à rien. Bien-aimé, je suis en train de dire clairement que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas facile pour l'homme naturel. Nous avons à notre disposition la vie du ciel qu'on peut recevoir dans la prière, dans l'humiliation, dans les jeûnes, dans les supplications, dans la lecture de la parole. On peut recevoir cette vie-là. C'est possible. C'est là que je parle de la confiance. Nous devons faire confiance en Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce que la vie qu'on demande au juste n'est pas possible. Ce n'est que la foi en Dieu qui peut réaliser cette vie en lui, qui peut le faire avancer. Sans cette foi, le juste est perdu. Parce que ce qu'on lui demande pour manifester sa justice est au-dessus de ses forces. C'est ça la réalité. Le juste vivra par la foi. La foi est notre organe, un de nos organes principaux. Sans la foi, on ne peut pas vivre ce qu'on est en train de dire. Parce que ce n'est ni par la force, dit la Bible dans Zacharie 4 et 6, ni par la violence, mais c'est par ma puissance, dit l'Éternel. C'est la puissance de Dieu qui nous rendra capables de vivre cette vie-là que nous sommes en train de dresser là. Nous sommes comme les fourmis là qu'il y a dans les dessins animés en Thomas, hein, oui. Donc, une petite fourmi qui peut transporter un immeuble dans un des dessins animés dans l'une des chaînes. J'ai vu ça quelques fois. Donc tu es une fourmi, mais tu transportes un immeuble. C'est ce que nous sommes, les chrétiens. Et le jour de ta mort, tu dis ouf. Et Satan se dit, mais tiens, donc cette fourmi m'a fait échouer pendant 65 ans, pendant 80. Oui, tu n'as pas pu l'écraser. Parce qu'elle était remplie de la puissance du ciel. Bien aimé, c'est pas pour rien que Paul a dit, ouf, dès Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis en train de dire que c'est facile et possible pour celui qui s'est humilié devant Dieu et qui a confiance en Dieu. Et cette confiance, cette humiliation est constante. Vous savez pourquoi on se fait avoir? Parce qu'on marque des pauses dans la vie chrétienne. On se dit, j'aurai la foi quand j'écouterai la prédication le dimanche. J'aurai la foi aux études bibliques de mardi. La vie chrétienne est une vie de chaque jour. Ce qui nous fait galérer, c'est parce que quand on arrive là où on travaille, on se dit, je mets une parenthèse à ma vie chrétienne. Et avec le diable, il n'y a pas de parenthèse. Donc la partie où tu le laisses en parenthèse, il va dire merci. Enfin, je peux agir tranquillement. Allez, je vais glisser telle chose dans son mollet, telle chose dans son genou, telle chose dans sa tête. Donc, quand tu ressors de ta parenthèse, tu es détruit. Et tu vas plaindre qui? Tu vas te plaindre contre qui? Contre Dieu. Or, c'est toi qui t'es créé une parenthèse. La vie chrétienne, c'est une vie de chaque instant. Et je dis une chose, au bien-aimé, il faut régler chaque problème qui se présente. N'est pas retarder le règlement du problème.
quand il se présente, réglé parce qu'on a les ressources qu'il faut en ce moment. On a plus que des cartes bancaires, on a la prière qui va directement dans nos comptes au ciel, qui va directement jusqu'à Dieu, on a plus que les haut-parleurs. On a la prière. La vie chrétienne, c'est chaque jour. C'est ces parenthèses-là qui sont dangereuses. Nous ne devons pas faire des pauses avec Dieu. C'est pourquoi Paul dit prier sans cesse. C'est ainsi qu'on peut mener cette vie surnaturelle. En aimant les ennemis, en aimant les mauvaises personnes, la puissance de Dieu se manifeste. La vie de Dieu se manifeste. Bien-aimés, un autre point que je voulais partager, c'est que Dieu est notre Père. Nous menons une vie dans laquelle Dieu est le Père. Dieu est notre Père. Bien-aimés, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont inquiets, malheureux, parce qu'ils n'ont pas, ils ne vivent pas la paternité de Dieu. Je peux vous dire que on ne parie pas, mais si on pariait, on pourrait parier 10 000 euros là, si on annonçait à quelqu'un, aux gens d'ici, que non, Sarkozy c'est ton oncle. Mais bien aimé, beaucoup ne vont même pas finir le culte. Quel sourire ils vont avoir. Oh, je savais, c'est mon oncle. Mais c'est fini. Je vais quitter Rouen. On verra l'appel de Dieu après. Ils me font un poste à Matignon, à l'Élysée carrément. Quel que soit cuisinier, mais ils me font un poste là-bas. Qui ne serait pas content d'apprendre ça? Que Bill Gates, c'est un cousin. Mais bien aimé, c'est fini là. Beaucoup vont dire, ah, j'ai tant souffert, Dieu m'a entendu. Non, bien aimé. Mais on t'informe dans la Bible tous les jours que Dieu est ton Père. Et tu restes toujours là. Ce que tu n'as pas compris, ce que ça veut dire. Ce que tu n'as pas compris. Lui qui est plus riche que Bill Gates, qui est plus riche que tout ce monde là. On t'informe ça tous les jours. Donc, bien-aimé, est-ce qu'on est d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas compris? Oui, on n'a pas compris. Soyons sincères. On n'a pas compris. Parce que si on avait compris, on avait compris cela. Personne ne peut être malheureuse dans la vie chrétienne. Impossible! Le Père qui a fait les cieux et la terre, dont on dit qu'il a créé l'homme. Vous savez, encore les présidents, ils ont de l'argent. Mais est-ce qu'ils peuvent guérir le cancer? Non! Nous, on te dit que le Dieu qui est ton Père, mais c'est celui qui a fait les atomes. Donc, comme on se souvient du centenier romain, il n'avait même pas la connaissance que Dieu était son Père. Il savait juste que Jésus avait la puissance de Dieu. On ne lui avait pas dit que Dieu était son Père. Juste cette connaissance-là que Jésus était la puissance de Dieu, était Dieu lui-même. Alors, il a dit à Jésus, mais pourquoi tu veux venir jusque chez moi? Dis seulement une parole là où tu es, là-bas. Comme moi, je donne des ordres aux soldats. Mes soldats m'obéissent, même à distance. Je dis, toi, va là-bas, il va. Mais toi, Jésus, pourquoi tu te sens obligé de venir jusqu'à chez moi pour guérir mon serviteur? Donne des ordres aux microbes, là où tu es, ils vont t'entendre, ils vont sortir. Jésus a dit, mais voilà quelqu'un qui a compris. Même en Israël, je n'ai pas vu autant de foi. Et c'est la même phrase que Jésus dit aujourd'hui dans son église. Même dans l'église de Dieu, je ne vois pas tant de foi. Je ne vois pas cela. Les gens sont là tristes parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est leur Père. Bien-aimés, l'orgueil nous empêche d'accepter cela. On trouve cela trop grand. Pourquoi on trouve cela trop grand? Parce qu'on réfléchit comme des humains. On refuse de réfléchir comme Dieu réfléchit. On refuse la nouvelle nature que Dieu nous a donnée en prétextant qu'on ne comprend pas. C'est faux. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas. On refuse parce que ça nous dépasse. Que Dieu soit notre Père, on trouve ça que c'est des histoires. En réalité, c'est ça le problème. C'est l'orgueil. Notre orgueil qui nous empêche d'accepter qu'on nous fasse un cadeau si facile. C'est ça qui nous dérange. Beaucoup disent, mais je ne reçois pas l'amour de Dieu. Non, c'est que tu refuses parce que ton orgueil t'empêche d'accepter cela. C'est trop facile. Surtout ceux qui ont souffert dans le passé. ils refusent parce qu'ils se disent, mais non, j'ai trop souffert pour être heureux maintenant. Mais c'est ça le problème. Mais c'est de l'orgueil, ça. Donc, puisque tu as trop souffert, tu ne peux plus être heureux. Ah oui, vous savez bien, mais c'est la pensée qui est dans le cœur. Oh, on va pas dire que j'ai souffert 40 ans pour maintenant être bien. Mais bien aimé. Combat ce raisonnement-là. C'est ce que Paul dit. Nous n'avons pas les armes que nous avons, c'est des armes qui combattent les raisonnements. C'est les raisonnements notre ennemi. Le raisonnement te dit, même si tu le dis pas à haute voix, mais c'est trop grand quand même. Dieu notre Père, bien-aimé, humilions-nous aujourd'hui. Acceptons que Dieu est notre Père. Moi, je vais pas dire que Dieu nous fasse comprendre cela. J'ai assez prié pour cela. Donc, maintenant, je dis plutôt, humilions-nous pour accepter ce que Dieu dit. Humilions-nous. S'humilier, c'est combattre son propre raisonnement intelligent. C'est ça, s'humilier. Dire à son raisonnement intelligent que c'est un faux raisonnement. C'est ça, bien-aimé, l'humiliation. Dieu est notre Père. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, Dieu est mon Père. Et quand on te dit tu vas prêcher, moi je dis, mais il est mon Père, il va me donner le sujet. Je n'ai même pas... bien-aimé, non. Et si mon Père veut que je m'humilie dans le jeûne pour chercher quelque chose, qui est même simple, je le fais par obéissance parce que je sais que c'est pour mon bien. Il ne veut que mon bien. Il ne veut que mon bien. Puisque c'est mon Père, il ne veut que mon bien. Tous les ordres... Il y a David qui a dit, tes jugements sont beaux. Hein, il ne dit même pas ta parole. Il dit tes jugements. Donc, c'est-à-dire quand Dieu même te juge, c'est bien, quoi. Tu te casses une jambe. Tu dis merci, Seigneur. Ah, quelle bonté, Père. Sûrement, cette jambe-là qui se casse, c'est quelque chose qui va m'amener vers toi. La plus grande richesse qui existe, c'est toi, Dieu. On te vole la voiture, tu dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une si belle chose? Parce que tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est bien pour moi parce que c'est mon Père. Les gens sont là. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Mais dès qu'il manque quelque chose, oh, je souffre. Mais non, mais tu avais chanté que moi, je ne souffrirai jamais. Moi, je ne souffrirai jamais. C'est vrai. Mais comment? Dans la compréhension de la parole. Plus tu comprends Dieu, plus tu t'humilies devant lui. Tout ce qui t'arrive de négatif, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Ça te rapproche de qui? De Dieu. Qui est la plus grande richesse qui existe dans ce monde? C'est Dieu. Parce que si c'était autre chose, comment se fait-il que les serviteurs de Dieu qui ont fait des exploits, certains sont en enfer? Parce que la Bible le dit dans Matthieu 7, 21, certains diront, Seigneur, en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts. Jésus leur dira, allez loin de Dieu, allez dans le feu, vous qui n'avez pas obéi à la volonté de Dieu. Voilà. Où est la différence? La différence ne se trouve pas dans les exploits, la différence se trouve dans la nature de Dieu. Plus on est dans la nature de Dieu, plus on est heureux. Peu importe que dans ce monde on paraisse comme n'ayant pas de succès, bien-aimé, avec Dieu, on est dans la bonne voie, on est dans la réussite. Les gens vont parler, ils vont dire, mais tu deviens bête, mais c'est cette voie-là qui est la bonne voie. Être bête pour Dieu, c'est devenir sage. C'est ça la réalité. Parce que pour croire à la parole de Dieu, il faut être bête. Et moi, je suis l'un des grands bêtes de ce monde, bien-aimé. Parce que je crois en la Bible. Je crois que dans l'arche de Noé, il y avait des moustiques, deux moustiques. Je crois que dans l'arche de Noé, il y avait deux chameaux. Je crois que dans l'arche de Noé, il y avait deux lapins, aux côtés des lions. Je crois que dans l'arche de Noé, il y avait des dinosaures. Je crois, bien-aimé, que Noé, dans son arche, a pu mettre tout dedans. Voilà. Je crois à la date de la création telle que Dieu inscrit ça dans la Bible. Je crois. Parce que qui peut connaître ce qui existait? C'est celui qui existait à ce moment-là. Les gens qui calculent maintenant, ils n'étaient pas là. Ils font des calculs. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un jour, ils ont calculé l'âge d'un crabe qui venait de mourir. Ils ont trouvé 200 millions d'années. Bien aimé. Un crabe qui vient de mourir, je crois une pieuvre, un calamar, voilà, un calamar. Ils ont calculé son âge. Il venait de mourir. Ils ont trouvé 200 millions d'années. Bien aimé. Moi, je vais me fier à ces instruments-là. Je me fie à la Bible. Parce que Dieu était là pendant qu'il faisait ces choses-là. C'est lui seul qui était témoin. Tous ces gens-là qui font avec leurs appareils, ils n'ont qu'à résoudre d'abord le problème de la mort. On va croire, bien-aimé. C'est ça, le surnaturel. Où on résout le problème de la mort. Quelqu'un est mort, tu viens, tu pries, il ressuscite. Ben, allez demander au médecin de faire ça. Ils sont devenus experts maintenant en euthanasie, en tuant les gens. Bien-aimés, parce qu'ils ont échoué ailleurs. Seul Dieu peut réussir. C'était un autre point, les miracles. Dieu donne aux chrétiens une vie de miracles. Une vie de miracles, parce que la vie normale, tout le monde la vit. Tout le monde peut témoigner que mon nez était gros, on m'a arrangé ça par un chirurgien. Tout le monde peut témoigner. Mais tout le monde ne peut pas témoigner que j'étais mort, je suis revenu à la vie. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut guérir en une seconde une maladie. Alors qu'il y a des gens qui font des convalescences de 6 mois, de 10 mois, de cures de 3 ans. Dieu te guérit en une seconde. Vous savez, la vie chrétienne, c'est ce que Pierre a vécu. Quel jour? Le jour où il a voulu marcher sur les eaux. La vie chrétienne, c'est marcher sur les eaux. Est-ce qu'on peut marcher sur les eaux? Mais non. Mais ce jour-là, ça a été donné à Pierre de marcher sur les eaux. Mais est-ce qu'il a pu marcher jusqu'au bout? Non! Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible. Mais c'est la même chose avec la vie chrétienne. Tu vas dire, mais non, mais attends, mais c'est pas possible. On me demande sans argent d'acheter quelque chose. Oui! Mais puisque l'argent vient du ciel. La vie chrétienne, c'est ça, mais c'est pas possible quand même. On va pas me demander d'aimer ce mauvais dictateur-là. Oui. C'est possible. Dieu mettra cet amour dans le cœur. C'est possible. C'est ça la vie chrétienne. C'est marcher sur les eaux. Donc vivre dans l'impossible chaque jour. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, contrôle ma vie. Je crois que tu vas la gérer. Et je suis en paix. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est une vie surnaturelle. Et Dieu va nous mettre dans des situations pour qu'il réalise des miracles. Souvenez-vous dans Jean 9, on a demandé à Jésus, mais pourquoi cet homme est aveugle depuis sa naissance? Pourquoi? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que ses grands-parents ont péché? Jésus a dit, c'est afin que quoi? Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Afin que la différence se fasse entre ce qui est normal et ce qui est de Dieu. Et Dieu utilisera la vie chrétienne pour créer cette différence-là. Il utilisera la vie chrétienne pour manifester cette puissance-là. Que les gens réalisent que notre Dieu est le Dieu créateur, le Dieu de miracles, le Dieu exceptionnel. Et Israël a toujours vécu comme ça. Tout le temps des miracles. Tout le temps des miracles. Mer Rouge, miracle. Beaucoup de guerres qu'Israël a gagnées, ça n'a été que par les anges. Eux, ils n'ont même pas combattu. C'était toujours des miracles, des miracles, des miracles. La vie chrétienne est une vie de miracles. Et nous, on veut la réduire à une vie normale. Bien-aimés, je ne dis pas qu'on... Je suis pas comme ceux-là qui cherchent les miracles pour croire vraiment. Non, moi, je crois déjà. Dieu a déjà fait ses preuves. Nous voyons le soleil, on voit les oiseaux. C'est tellement beau que je ne peux même pas contester de Dieu. Mais j'accepte les miracles que Dieu envoie. Et je sais qu'on va les vivre. Chaque jour, nous, ceux qui sont vraiment chrétiens vivent des miracles. Ils n'ont pas besoin de courir vers ces miracles. Chaque jour, ils vont en vivre. Dieu va envoyer parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient vivent des miracles chaque jour. Mais c'est parce que les miracles sont devenus un style dans l'église que Dieu ne cède pas aux caprices des hommes. Il cède plus au mode des hommes. C'est à la mode des hommes, c'est pourquoi on a l'impression qu'il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus parce que on a dévoyé le rôle des miracles. Le miracle sert à nous rapprocher de Dieu, non pas à brandir de l'orgueil en disant j'ai fait des miracles ou j'en ai vu. C'est pour dire, oulala, comme Dieu est grand. Comme Dieu est grand. Comme Dieu est tout puissant. Mais nous voulons des miracles pour se rassurer. Ça, Dieu ne nous donnera jamais de tels miracles, sauf pour nous perdre. Il veut qu'on vive des miracles pour glorifier son nom. Pour dire comme il est tout puissant, bien-aimé. C'est ça la réalité. Bien-aimés, entrons dans cette vie de différence. Et je cite deux points rapidement. Il y a l'adoration, reconnaître ce que Dieu est. C'est ça la vie surnaturelle que Dieu donne aux chrétiens. Un païen ne peut pas le savoir. Seul un chrétien véritable sait ce que Dieu est. Dans le secret. Vous savez, il y a des phrases qui sont dans les psaumes. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire. C'est des phrases extraordinaires que Asaph a dit. David a dit ces mêmes phrases. C'était des adorateurs. Ils pouvaient, dans la prière, arriver à contempler Dieu. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. C'est un privilège fait aux chrétiens seulement, aux enfants de Dieu, d'adorer Dieu chaque matin, chaque soir, l'après-midi, de reconnaître, ô Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses. Ce n'est pas comme les ingrats de ce monde qui arrosent les fleurs, qui ne veulent pas adorer Dieu. Chaque matin, il sort son chien, il oublie que c'est Dieu qui a créé le chien. Bien-aimé, non, nous on va sortir, tu sors ton chien, tu dis, mais quelle belle créature. Ouh là là, surtout quand les chiens s'amusent, tu lances la balle, il suit, il te ramène, tu prends encore la balle, tu l'envoies, il part, il court. J'aime voir ces spectacles-là. C'est beau la création de Dieu. Dieu cherche les adorateurs qui vont reconnaître la grandeur de Dieu, qui vont reconnaître que Dieu est tout-puissant. Tu manques de quoi manger, tu dis, ah Seigneur, merci pour ce manque de nourriture. Ça, le païen ne peut pas le faire. Adorer Dieu, seul toi tu peux le faire parce que tu comprends Dieu au-delà des yeux. Et beaucoup loupent cela, ils ne veulent même pas prier. Ils croient que la prière est un fonctionnement religieux. C'est pourquoi ça les ennuie. Mais si Dieu nous ouvrait les yeux, on dirait, mais non, la prière, c'est notre privilège. C'est ce qui est écrit dans Psaume 33. La louange sied aux hommes justes. La louange, c'est comme un costume. Ça va avec les hommes justes. Parce que seuls les hommes justes peuvent louer et adorer Dieu comme il faut. Parce qu'ils savent qui est Dieu. C'est un privilège pour les hommes justes, la louange. Et ça leur sied. Et puis nous clôturons par le renoncement à suivre, le renoncement à soi pour suivre Dieu. Bien-aimés, c'est un privilège que seuls les justes ont, seuls les chrétiens, seuls les enfants de Dieu ont. Ils sont capables de vivre en fonction du plus tard. Plus tard, je serai dans le ciel. D'accord. Je peux tout supporter sur terre. Ça fait beaucoup de. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours des chrétiens et ça me déçoit. Les chrétiens qui disent, je perds mon temps. Mais quand tu regardes bien, il n'a pas perdu son temps. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé dans la prière. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé dans les conseils. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé dans, comment dire, en bénissant matériellement les autres bien-aimés. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé en élevant des enfants. Mais ils ne voient pas tout ça comme étant une action de Dieu. Ils veulent peut-être faire des choses visibles que les autres vont applaudir pour reconnaître que Dieu est en eux en train de travailler, quoi. Et je suis déçu. Moi, avec Dieu, on peut faire 40 ans comme les frères chinois. Alain Yuan, 22 ans en prison avec cet enfant à l'extérieur. 22 ans à cause du nom de Jésus. On va dire quoi? Il a perdu son temps. Mais non! Il a investi! Jésus dit, investissez au ciel! Voilà le privilège du vrai chrétien. C'est qu'il peut investir au ciel en sacrifiant sa vie sur terre. Ça, un païen ne peut pas le faire parce que toute sa vie est ici. Il construit tout en fonction d'ici. Mais le chrétien, il construit en fonction du ciel. Ça, c'est un privilège, bien-aimé. C'est ça la vie surnaturelle. Combien de fois on m'a matraqué par ma famille. Vous savez, quand je voyage, dès que je retrouve les gens qui me connaissaient avant, ils disent toujours, mais Eric, ils veulent toujours me dire, mais les maths, la physique, l'ingénieur, revient. Donc, pour eux, Eric a gaspillé son cerveau dans les choses de Dieu. Bien-aimé, mais moi je sais combien j'ai gagné en Jésus et combien j'ai investi pour le ciel. Les âmes que je sauve, je les verrai au ciel. Mais je refais toute la physique du monde. Je refais même des erreurs. Aujourd'hui, on corrige les choses d'Einstein. On corrige les choses de beaucoup de personnes. Mais ce que tu fais pour Dieu, personne ne peut corriger ça.
c'est des œuvres en argent, en or, en pierre précieuse, bien-aimés. Revenons dans cette vie qu'on vit en espérance du ciel, dans la projection du ciel. Revenons dans cette vie-là. Et Dieu se glorifiera. C'est l'heure de la différence. Que son nom soit béni. Merci Seigneur de nous aider à marquer la différence dans le nom de Jésus-Christ.